Allez-y. Non, une seconde, je compte. Alors, 3, 4.
On ne parle pas la bouche pleine.
On ne parle pas la bouche pleine.
Une émission d'Alain Crugère.
Ressortez.
Est un cactus, il est impossible de s'asseoir. Dans la vie, il y a des cactus. Moi, ceux qui ne le savent pas. Aïe, aïe, ouïe, aïe, aïe.
Bonjour, bonjour. Alors, nous n'allons pas parler de cactus, mais nous allons parler d'aïe, aïe, aïe. Aïe 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 avec Liliane Giraudon, qui est une écrivain et poète.
Poète, il y a un féminin, poétesse, mais c'est peut-être un peu trop aillé.
Et alors nous allons parler de l'aïe comme, on peut dire comme marqueur social.
Ah oui, parce que je pense que c'est une rose puante et donc un marqueur social.
Vous avez... écrit un petit livre absolument magnifique avec votre compère Xavier Girard qui s'appelle « Histoire d'ail ».
C'est une commande de Catherine Floïc.
Qui est l'éditrice d'édition
Qui est l'éditrice et en fait c'est presque parti sur un gag. Elle commençait cette collection assez passionnante, je dois dire, parce que quand même, si la pensée se fait dans la bouche comme disait Picabia, bon, avec la bouche on fait autre chose que parler ou penser, on mange, et si on ne mange pas, on meurt, alors qu'à la limite, on pourrait ne pas parler, ne pas mourir. Donc, il y a quand même des priorités vitales dans cette histoire. Elle m'avait dit, fais quelque chose. Et moi, mais vraiment par provocation et par gag, je me souviens, on mangeait des huîtres ensemble. Je lui dis, bon, moi, je suis incapable de parler de la cuisine parce que quand j'étais petite, je voulais être un garçon et j'ai mis des années à accepter, à me mettre à faire la cuisine. Enfin, en dehors du fait de survivre en mangeant ce qu'on trouve. Et je lui dis, non, je peux parler de l'ail, si tu veux, parce que ça, c'est un truc qui m'intéresse. Et elle me dit, bah, fais un livre sur l'ail. Et là, j'étais... Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, je ne peux pas faire ça seule, c'est trop sérieux, mais c'est vrai, c'est un sujet très sérieux, parce que c'est un sujet qui touche à beaucoup de choses vitales et qui touche à des interdits, à des assignations et aussi à des souffrances. Parce que c'est un objet qui partage, qui sépare et qui quand même peut-être peut devenir non seulement un objet de jouissance et de plaisir, mais pour une certaine catégorie de gens, mais aussi un objet d'interdit, d'index, de soumission, de brimade. Moi, par exemple, j'ai été humiliée à cause de l'ail.
La tête d'ail, c'est l'injure tête d'ail.
Tête d'ail, c'est une injure, mais moins violente que tête de nœud, quand même. C'est entre la tête de nœud et ça crippant, on aurait dit, au siècle dernier. Dans tête d'ail, il y a l'insulte, mais il y a, je veux dire, une giclée, un zeste de tendresse. Et on dit plutôt tête d'ail à des garçonnets, à des jeunes gens. On ne traite pas un vieux de tête d'ail. C'est très compliqué, hein. C'est comme la cuisine et les mots.
Pourquoi on ne peut pas toujours rire avec l'ail ?
Je vais vous raconter une histoire ancienne de l'enfance, justement. C'est comme ça que j'ai appris, d'ailleurs, initiation à la lutte des classes. Dès l'âge de 7-8 ans, j'étais ma mère un peu bovarique. Nous avions séparé mon frère jumeau et moi pour nous mettre dans des pensions. J'étais chez les Sœurs Trinitaires à Avignon. Et ça a été un véritable trauma parce que je suis passée d'une vie assez sauvage dans la campagne, élevée par mes grands-parents qui étaient paysans, à un internat militaire, religieux, effrayant. Et ce qui a commencé à être troublant, c'est que je mangeais une nourriture absolument sans goût. C'est-à-dire, du coup, je suis pratiquement devenue anorexique, je n'arrivais pas à manger. parce qu'il n'y avait pas d'ail. Alors que chez moi, il y avait de l'ail dans tout. Et de l'huile d'olive dans tout. Donc, avec quelques petites paysannes, j'allais dire immigrées comme moi, dans ce couvent absolument répressif, au niveau des horaires, des tenues, etc., et de la bouche, des plaisirs de la bouche, on avait introduit au réfectoire de l'ail. J'avais demandé à ma grand-mère de l'ail, que j'avais caché dans mon sac. Mais on était très naïve parce que, effectivement, on ne peut pas plaisanter avec l'ail. Donc, on prenait des gousses d'ail qu'on défaisait, mais en plus, on était très surveillés quand même. Hein. Donc, on les grattait avec notre fourchette, mais on s'est fait évidemment repérer. Et là, ça a été une humiliation publique. Première humiliation publique, punie évidemment de sortie pendant un mois. Et on était debout dans nos blouses comme des criminels. La mère supérieure nous a tancés en public. Mesdemoiselles, nous vous ferons perdre vos accents et le goût de l'ail. Et c'était énoncé selon une vocifération aigre, pincée, absolument effrayante. Et on était évidemment horriblement humiliés. La même chose m'est arrivée un an après avec l'eau de lavande dans un dortoir. Mais bon...
Parce que la lavande et l'ail, c'était un marqueur social.
C'était un marqueur social, puisque les petites bonnes que la bourgeoisie avignonnaise ou marseillaise louait et qui venaient de l'arrière-pays, par exemple des hauteurs de Digne, enfin, ce qu'on appelait les Alpes de Haute-Provence ou les Basses Alpes, je ne sais pas comment ça s'appelait avant, toutes les petites bonnes venaient se louer et dans les villages, les gens faisaient leur eau de toilette avec le lavandin, avec la lavande. Et donc, elles amenaient des bouteilles d'eau de lavande. Donc, il n'était pas question que les dames bourgeoises, j'allais dire qu'on les renifle de la même manière que les boniches, mais c'est un peu ça en gros. Il ne fallait pas qu'elles sentent la même chose que leurs domestiques. Donc, longtemps, la lavande a été considérée comme un parfum vulgaire.
Pourquoi cette malédiction de l'ail ? Parce que qui remonte à l'Antiquité.
Alors, une malédiction, je ne sais pas. J'ai lu une anecdote dans Hélène Cixous qui montre que c'est quand même, ça peut tourner facilement à la tragédie au niveau de l'insulte. Elle raconte comment, par exemple, les antisémites traitaient les juifs de mangeurs d'ail. Et c'est vrai que dans les ghettos, les juifs mangeaient de l'ail, mais par connaissance des valeurs et des capacités, je dirais, médicinales, au niveau de l'hygiène, l'ail était effectivement très nécessaire. Je m'étonnais d'ailleurs, dans Babel, je me rappelle, j'avais lu, au moment des pogroms, qu'il y avait de l'ail par terre et des plumes dans l'air. C'est quelque chose que je ne comprenais pas et... j'ai un ami qui mange beaucoup d'ail aussi, qui s'appelle Yvan Mignot, qui est traducteur de Klebnikov et de Mandelstam, qui m'a dit que les Russes non-juifs ignoraient, enfin, ne connaissaient pas l'usage des couettes ou des édredons de plumes. Seuls les juifs dans les ghettos avaient des édredons et des matelas de plumes. Donc quand il y avait des pogroms, effectivement, ce qui ressortait, c'est les plumes avec les épées, les cosaques, défoncer les édredons et effectivement jeter l'ail, parce que l'ail était peu consommé.
Quand Hermès donne cet ail pour le protéger de Circé, est-ce que c'est déjà ce que l'on va découvrir avec les vampires, avec Nosferatu, avec...
C'est peut-être aussi simplement une histoire de sexualité, parce que je ne pense pas que l'ail chasse les vampires. D'ailleurs, l'ail se conserve dans les caves comme les vampires. Moi, je pense qu'ils avaient une pratique, une connaissance de l'ail. Donc, je pense que c'est parce qu'ils étaient très pâles, on pensait qu'ils n'avaient pas de... Enfin, qu'ils avaient une vie sexuelle différente de ceux qui sont brillants, chauds. Et on dit que l'ail est brillant et chaud, solaire, fort de goût. Mais étrangement, il a la blancheur scintillante... Je pourrais dire des femmes ou des hommes qui sont des vampires. Donc, c'est le problème du baiser.
I am a man and she is mine.
Was she yours last night? Would she be yours if you let go of her now?
You go with me.
No!
C'est un film absolument sublime.
Alors, Les Lèvres Rouges, c'est un film fantastique belge qui s'appelle en anglais Daughter of Darkness de Harry Kummel et où Delphine Seyrig joue une comtesse vampirique tout à fait remarquable.
Lesbienne.
Qui est une comtesse lesbienne. Alors, le mot gousse, ça vient d'où?
Alors, je pense que c'est un terme, j'allais dire provençal, mais qui fait partie quand même du vocabulaire populaire. Moi, je me rappelle dans les communions, qui étaient des fêtes où on mangeait, ou dans les grandes fêtes où il y avait des aïolis géants dans les villages, il y avait une ou deux femmes paysannes qui vivaient seules, qui étaient souvent, qui avaient hérité d'un petit mas et qui menaient leur terre, comme on disait, menaient ces terres. Et elles étaient en pantalon, elles avaient les cheveux courts et elles invitaient des femmes qui venaient de Marseille. Des femmes blondes, à l'époque, elles avaient des espèces de coiffures, je me rappelle, comme des choucroutes bien laquées sur la tête, des espèces de cagoles magnifiques. Je pense qu'Andy Warhol aurait été fou en les voyant. Très féminine, mais avec un relent, on parlerait de genre aujourd'hui, extrêmement problématique. Et les hommes redoutaient pour leurs femmes, ils surveillaient leurs femmes. Je crois qu'ils avaient encore plus peur d'elles que des beaux jeunes gens raseteurs. Et j'entendais le mot « gousse ». Je savais pas ce que c'était, évidemment. Je savais pas ce que c'était. Après, je me suis posé la question et j'ai regardé une tête d'ail. J'ai défait une tête d'ail. J'ai essayé de réfléchir. Et je me suis dit, mais c'est vraiment un fantasme masculin le plus, je dirais, figuratif, le plus fantasmatique et sans doute le plus misogyne. Parce que je pense que ça décrivait les gousses, c'est le clitoris. Et la proximité d'un clitoris sur un autre clitoris, ça doit être ça. C'est-à-dire l'assemblage de ces deux sexes qu'on veut séparer, évidemment.
Comme des gousses d'ail.
Comme des gousses d'ail, qu'on veut séparer aussi, parce que de même qu'on sépare les mangeurs d'ail de ceux qui n'en mangent pas.
Alors pourquoi on les sépare?
Parce que c'est le symptôme d'une vulgarité. C'est une odeur. C'est aussi tout le problème des odeurs. Enfin, je crois que si, par exemple, on revenait au Moyen-Âge ou au XVIIe siècle, on serait étonné par les bruits, mais surtout par les odeurs. Je pense qu'on supporterait absolument pas de se retrouver ni à la cour, ni dans des... D'ailleurs, Arlette Farge parle très bien de ça dans ses textes, quand elle reconstitue, par exemple, Paris au XVIIIe, dans certains quartiers, bon, je pense qu'aujourd'hui, on s'évanouirait. On n'est plus du tout préparé aux odeurs des corps, de tout. Enfin, je vois, par exemple, dès qu'on fait du poisson, ou dès qu'on fait une soupe à l'ail, le lendemain, on se dépêche de descendre les poubelles.
C'est l'empeste?
Voilà, l'empeste, on dit. Et d'ailleurs, on dit... quand on dit de quelqu'un, je ne peux pas le sentir, celui-là. C'est du rejet, ça peut être aussi carrément du racisme.
Et il empeste l'ail?
Il empeste l'ail, ça veut dire il est vulgaire, il n'est pas, j'allais dire, consommable. Non, il n'est pas consommable et il n'est pas fréquentable. Ce sont de mauvaises fréquentations.
Mais Liane Giraudon, dans votre histoire d'ail, vous racontez l'histoire d'un fossoyeur. Il y a des pratiques assez particulières avec les tresses d'ail.
Je ne dis pas le village, parce que je ne sais pas, il est peut-être toujours vivant. C'était un jeune homme qui était un raseteur extraordinaire, qui avait beaucoup de succès avec les filles. Bon, les raseteurs, ce sont ces jeunes gens qui, dans les courses libres, vêtus de blanc, sont des exemples de beauté, d'agilité, de jeunesse incroyables. Je l'ai retrouvé pour la mort de mon père, au cimetière, mais très, donc très très longtemps après. Et c'était un homme un peu vieilli, grossi, fatigué, alcoolique, qui se retrouvait comme fossoyeur, qui s'occupait de la maintenance du cimetière. Et je parle avec lui parce que je l'avais connu très jeune et j'étais très très émue en le retrouvant. Et il me raconte que ça va, enfin il fait que tout va bien, tout va très bien. Et tout va très bien, surtout ma vie sexuelle. C'est bon, j'étais très étonnée parce qu'il avait l'air de faire un rapport entre sa vie sexuelle et son travail de fossoyeur. Donc,
Et il y en avait un.
Et voilà. Et donc je lui dis ah bon. Il me dit oui parce que ben, tu sais l'été moi j'ai des fosses, enfin des lieux frais dans le cimetière et les femmes me donnent leur réserve d'ail que je garde. Mais tu sais au moment de la sieste il y en a qui viennent me voir et il me dit là il y a rien de meilleur que un matelas d'ail et au frais, évidemment, dans un cimetière. Et je dois dire que j'étais assez troublée par ce qu'il me racontait. Bon, je pense qu'il y a une grande part de fantasmes, de récits.
Pour revenir avec ce qui se fait dans la bouche, je vous propose d'écouter Juste Fontaine chanter « Aille ton rire ».
Sur France Culture, on ne parle pas la bouche pleine avec Alain Kruger.
Aïe ton rire au long des jours. Je l'entends vibrer comme un grand cri d'amour. Aïe ton rire du fond des nuits. Je l'entends qui me déchire et me poursuit. À l'image.
Peut-être que là, il y a quelque chose à voir avec le rire et l'éclat de rire, surtout. Parce qu'on retrouve. C'est un excès. Le rire aussi est un excès. Le rire ne se commande pas. On peut se chatouiller, on peut faire des stages de rire. Je crois que ça existe, des exercices. Peut-être pour les comédiens, apprendre à rire. Mais le rire, c'est quelque chose. Et d'ailleurs, ça se contrôle pas aussi. Et je pense que le goût de l'ail ne se contrôle pas non plus.
Il est euphorisant.
Il est euphorisant.
Entre autres.
Il est excessif. Il est explosif. C'est pas une explosante fixe, comme disaient les surréalistes, mais c'est une petite explosion. C'est un petit attentat dans la bouche. C'est un petit attentat aussi à l'intérieur des plats. Et c'est aussi un attentat à retardement, à effet différé, puisqu'après, il se poursuit dans le corps, pas uniquement avec la laine, mais aussi avec la peau.
La peau,
oui.
Et bah, le sang.
Le sang, bien sûr. Et les siestes, parce que quand on parle... Enfin, on croit...
Oui.
On croit que les gens se reposent dans les siestes. Je pense que les siestes sont aussi des temps de d'éros. Et on dit qu'après l'aïoli, il faut toujours la sieste. Moi, je pense que c'est aussi quelque chose... puisque si tout le monde mange de l'ail, les corps, les peaux, trouvent sont habités autrement, érotiquement. Alors, je ne vais pas être pornographe, mais...
Mais on peut, c'est assez gastronomique aussi.
Non, mais par exemple... Une fellation a certainement beaucoup à voir entre des partenaires, quels qu'ils soient. Après, un aïoli a certainement un goût très différent.
Alors, l'ail, vous l'aimez comment ?
Sous toutes ses formes, j'allais dire. Nu en chemise, gratté, j'en mange même. Le premier ail, moi, je le coupe même pas. Je prends les petites gousses, je les mange dans les salades, je le croque comme des amandes. Je l'aime cuit aussi en chemise, mais en chemise, je ne l'aime pas froid. Je sais que l'ail m'a sauvé du dégoût, par exemple. Parce que quand on était petit, qu'on revenait de ce pensionnat, notre grand-mère nous trouvait pâle, pas joyeux, et elle nous faisait des espèces de trucs qui s'appelaient des sanguettes, détestée. C'est-à-dire qu'en allant dans le poulailler, quand elle tuait un lapin ou un poulet, elle verse, il y avait une espèce de qui s'appelait une gatouille, une espèce de tapentie où il y avait de quoi faire la cuisine. Et dans une assiette en fer, elle faisait couler le sang de la poule ou du lapin, qu'elle faisait cuire tout de suite. Et elle nous faisait manger cette espèce de petite omelette qui avait une couleur de merde d'ailleurs. Mais elle mettait beaucoup d'ail dessus et un peu de vinaigre. Et on mangeait ça avec une certaine, comme un médicament, pour lui faire plaisir. Et puis parce qu'elle était très autoritaire. Mais c'était le goût de l'ail qui nous réconfortait. C'est-à-dire, on avait l'impression qu'elle nous faisait manger un truc dégueulasse. Mais heureusement, il y avait de l'ail avec du persil, je me rappelle. Et vraiment, l'ail, alors là, on était à la maison, quoi.
Et le marquis de Sade, il était aussi du pays de l'ail.
Ah oui, il réclamait beaucoup d'ail. Et il adorait quelque chose qu'il demandait avec des gigots. C'est quelque chose que ma grand-mère paternelle, parce qu'il y a deux lignées, faisait parce qu'elle s'occupait d'habiller les morts. Et elle voulait que je l'accompagne. Là, j'étais beaucoup plus petite, j'étais pas encore interne. Et je me rappelle, pendant les veillées, où il y avait des repas incroyables, où on mangeait beaucoup, on parlait du mort, enfin, c'était vraiment un truc formidable. Au petit matin, elle faisait, dans une grande poêle, des gousses d'ail, avec une pâte à beignet. Et on mangeait ça au petit matin, au moment de l'aube. Alors c'était peut-être pour digérer et le chagrin de la nuit, et ce qui avait été dit, et ce qui avait été mangé. Et c'était tiède, et c'était très bon. Mais j'ai retrouvé cette recette dans ce que Sade demande, parce qu'il est très très gourmand, il aime des choses précises qu'il demande, et des choses évidemment provençales de la côte, qu'il mangeait à la côte. Je crois que il fait venir des artichauts pour sa noce. Il les fait monter à Paris. Et
des poivrades, des petits artichauts.
Voilà, les petits artichauts violets. Parce qu'il n'y en avait pas et très peu de gens en mangeaient. Donc il fait monter ça. Et dans les pâtés, il demande des pâtés où il demande qu'il y ait de l'ail. Tous les gigots d'agneau sont remplis d'ail. Il parle beaucoup d'huile d'olive et d'ail.
C'est une frontière du Nord et du Sud aussi, en France ?
Bon, le sud, c'est les pauvres, c'est ceux qui foutent rien. Donc, c'est les mangeurs d'ail. Mais je crois que l'ail est mangé ailleurs. Ben, si les Gaulois en mangeaient, il n'y avait pas que dans le sud.
Et les militaires aussi, dans.
Ah, ben oui.
Dans le film admirable de Robert Lamoureux, mais où est donc passée la 7e compagnie, on a une consommation d'ail.
Vous avez peut-être une préférence pour le saucisson, mon lieutenant, sec ou à l'ail ?
Ça n'a aucune importance, mais croyez-vous.
Et vous, c'est...
Manchon.
Pour moi, ça serait de l'ail, tu vois. Demande à lui de l'ail. C'est pas de l'ail.
Vous savez du l'ail ?
De l'ail ?
Mon camarade, il veut du l'ail. Allez chercher du l'ail. Tout de suite.
Sinon,
boum !
Boum.
Attention, écartez-vous. On va manœuvrer.
Aïe-le ! Fais à Hitler!
Oui. Hé Hitler!
À Hitler!
Donc vous avez reconnu les voix de Jean Lefebvre, Pierre Mondi, Aldo Macione et Jacques Marin dans le rôle de l'officier.
Je vais me précipiter pour voir ce film que je n'ai pas vu.
Ah, mais oui, c'est vrai.
Mais il est prémonitoire, parce que là, on a un raccourci étrange, même aujourd'hui, à écouter. Ah. Non, mais moi, je pense que l'ail, c'est politique aussi. Ça aussi, c'est un mot dont il ne faut pas avoir peur. L'ail, c'est l'autre. C'est accepter l'autre en tant qu'autre. Et toute la difficulté est là. Halal, pas halal. Halal, pas halal. Est-ce qu'on est capable de vivre ensemble ? Moi, je pense que les mangeurs d'ail sont capables de vivre ensemble, avec n'importe qui. Bon, après, il y a ceux qui décident que non. Il faut mettre des barrières, faire monter des murs. Voilà. On parle d'odeur hein, aussi encore aujourd'hui. Donc je pense que les mangeurs d'ail, justement, ce sont des gens qui sont pour une démocratie directe, réelle. Et pourquoi on n'emploierait pas le mot amour, qui est un mot tellement dévariée aujourd'hui. Je pense que les mangeurs d'ail sont de bons amants et sont des amoureux de la vie et de l'autre, quel qu'il soit.
Et est-ce que l'ail, c'est le tétanos de l'âme ?
Ça, c'est métaphysique. C'est un peu haut pour moi.
Non, c'est pas...
C'est le tétanos de l'âme. C'est tout le problème d'Artaud. Parce qu'Artaud, à un moment donné, il dit « Ah, j'ai dû ne pas manger assez d'aïoli et de bouillabaisse pour... » Il y a un verbe assez étonnant qui dit « En gros, c'est pour croire aux esprits. » Donc c'est très compliqué, parce qu'à la fois, il demande pour ses 50 ans, il veut un aïoli. Il dit que l'huile d'olive, ça remplace le laudanum. Mais en même temps, il est dans un rapport très conflictuel avec son corps. Et je pense qu'effectivement, s'il avait mangé de l'ail à l'hôpital, ben peut-être qu'il se serait mieux porté. Mais je pense qu'il n'y avait pas d'ail à l'hôpital.
Con el silencio de una plegaria, las arboledas están llorando. Mientras la tarde y el río crecido, nuestra aventura está murmurando. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.
Le son n'est pas très bonne qualité, mais l'amour est là.
Oui, c'est Dario Moreno dans un duo absolument bouleversant avec un jeune garçon. Et c'est curieux parce que c'est ce que j'écoutais dans les chants avec des filles. Et c'était pour moi à l'époque l'équivalent de l'ail. Et c'était une sorte de... J'allais dire... d'antidote, parce qu'on nous faisait écouter les petits chanteurs de la Croix de Bois, et moi j'écoutais les chansons d'amour de Dario Moreno.
C'était Reynaldo Sanchez à la guitare et au chant, avec Dario Moreno tout près de lui, l'entourant de tout son amour.
Voilà, c'était magnifique, et ça, ça fait penser à l'ail. Moreno est un chanteur populaire, alors vraiment, si j'avais dit que j'écoutais ça chez les bonnes sœurs, je crois qu'elles me foutaient dans un bénitier tout de suite.
Aïe, 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 aïe.
Aïe, 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 aïe. Ouais. Mais pour... Et en plus, j'ignorais qu'il était homosexuel. Je croyais que Dario Moreno, c'était un chanteur de charme qui aimait les femmes.
C'était un chanteur de charme.
Oui, enfin bon, comme Luis Mariano, mais il y avait aussi... Il y a des transgressions à l'intérieur des images et des libertés énormes. Et moi, je sais que j'adorais Dario Moreno, mais je savais, comme l'ail dans ma bouche, qu'il fallait surtout que je l'écoute comme je mange de l'ail en fraude.
Mais c'est peut-être comme ça que c'est meilleur aussi.
Oui, mais peut-être aussi que ça a quelque chose à voir avec le fait que je me suis mise à écrire tout ça.
Merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous de Marseille.
Merci pour votre accueil et bravo pour votre émission qui est vraiment subversive, je trouve.
Faites attention, vous. Hein. 3, 4... Plié, tendu, la jambe et hop.
C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Krugère, avec la collaboration de Daphné Abgral, la prise de son est de Julien Douminck, et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez lire Liliane Giraudon et Xavier Girard, Histoire d'ail aux éditions Argol. Vous pouvez aussi podcaster, télécharger cette émission sur le site de France Culture. Vous pouvez aussi, tout de suite, dans quelques instants, écouter le journal.